avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux invités que j'apprécie beaucoup. Isabelle Ferreras, qui est déjà venue à Philosophie et Management il y a 3 ans maintenant, ou même plus, 4 ans. Voilà, et qui revient pour approfondir en fait ce qu'elle nous avait présenté sur la démocratie en entreprise au travers de ses études sur le bicaméralisme en entreprise. Et elle a écrit entre-temps un nouveau livre qui s'appelle « Gouverner le capitalisme », qui ne sera malheureusement pas en vente ce soir, mais que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Et nous avons alors Jean-François Zobrist, qui pour moi est une légende vivante, puisque nous avons appris à le connaître via... Nous avons appris à le connaître à travers Isaac Goetz, qui est venu, lui, il y a 3 ans à Philosophie et Management, qui nous a présenté son livre et toutes les entreprises qu'il avait étudiées, donc Freedom Inc., qui entre-temps a été traduit en français Liberté et compagnie. Et Jean-François est vraiment une des figures que Isaac analysait dans son livre au travers de l'expérience de Favi dont Jean-François va nous parler ce soir. Alors, ce qui nous intéressait beaucoup dans le cadre de notre réflexion globale sur l'évolution, je vais dire, des modes de gouvernance des entreprises, passant, je vais dire, de la maximisation de la valeur actionnariale à d'autres formes, mais c'était de voir justement ce que pouvaient nous apporter les études d'Isabelle sur la démocratie en entreprise, et puis sur l'expérience pratique de Jean-François pour redresser Favi. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'un vrai débat sur ces questions-là, car je pense que si certains des aspects de ce qu'a fait Jean-François Zobrist au sein de Favi peuvent donner l'impression d'une forme de démocratisation, c'est beaucoup plus complexe que cela, et on verra un peu quelles sont les différences ou les convergences entre les deux approches. Et nous avons enfin un troisième invité ce soir, Frédéric Laloux, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations » et dont, à nouveau, Jean-François Zobrist et Favi sont un des protagonistes en termes d'analyse. Donc Jean-François, un peu comme Isaac Goetz, a analysé toute une série d'entreprises pour comprendre comment le mode de gouvernance et de gestion des entreprises est en train d'évoluer. Et donc, Frédéric nous a fait le plaisir d'accepter d'être facilitateur du débat que nous aurons ce soir. J'oublie de dire qu'également, nous avons ici 2 livres de Jean-François, « L'entreprise qui croit que l'homme est bon », d'une part, et puis « Un petit patron naïf et paresseux », que vous ne trouverez pas malheureusement à acheter ce soir ici, mais que vous trouverez sur Internet. Donc les 2 copies qu'il y a là et celles que je vais laisser ne sont pas à vendre. Donc ça, on les récupérera tout à l'heure. Pour le reste, il y a des livres de Frédéric en vente et d'autres livres que nous avons présentés dans le cadre de ce cycle. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser tout de suite la parole à Isabelle. Isabelle, c'est à toi.
Ok, merci. Mais bonsoir, chers amis. C'est tout à fait impressionnant d'être avec vous ce soir parce que je m'adresse à des personnes qui sont, pour certaines, encore plus convaincues que moi de ce que je vais dire parce qu'ils le pratiquent tous les jours. Donc, c'est impressionnant. Et je suis vraiment très honorée de pouvoir partager avec vous le résultat de manière très ramassée, donc forcément un peu caricaturale, de mes recherches. Je dois vous dire quand même, pour situer mon propos, que je suis une sociologue et politologue. Je ne suis pas une femme de terrain. Je suis fière de faire de la sociologie compréhensive, c'est-à-dire que je fais des entretiens, je fais des interviews, je vais sur le terrain, je rencontre les gens qui travaillent, mais je fais aussi partie d'un monde académique et scientifique qui a ses propres standards. Et donc, je pense que ce soir, effectivement, on va mettre ensemble des éléments qui certainement seront très riches parce que très, très différents, venant de mondes très différents. Alors, j'ai, l'année passée, fin 2012, donc, publié ce livre qui s'appelle « Gouverner le capitalisme » pour le bicamérisme économique. C'est un livre qui, en fait, fait tout un parcours dans l'histoire de la transformation de nos sociétés occidentales pour s'inspirer au final des révolutions politiques vers donc la démocratisation des sociétés pour penser les révolutions dans l'entreprise. Alors, et ça se base sur le travail que j'ai fait avant, qui était là de la sociologie du travail, une étude pendant de nombreuses années, toute ma thèse de doctorat dans les supermarchés, pour comprendre le rapport au travail des caissières de supermarchés. Ça vous dit un tout petit peu quand même voilà, d'où je viens, qui je suis. Et je vais essayer maintenant de vous transmettre certaines choses que m'amène à penser ou idées que m'amène à défendre donc mes travaux. Vous allez voir que j'ai très peu de textes sur Média, j'en suis très très fière, parce que quand je suis venue il y a 5 ans, Laurent m'a dit « ça va pas du tout, Edia, tu as beaucoup trop, c'est illisible ». Et il m'a envoyé un exemple de DIA à suivre. Je me suis dit « ah ouais, il est gonflé quand même ». Genre, il y avait une DIA avec une plage, une DIA, bon, c'était vachement inspirant, mais je me suis dit « mais comment je vais jamais pouvoir émuler ça dans mon travail ?» Parce que moi, j'étais dans mes caissières, etc. Donc, en vue d'aujourd'hui, j'ai travaillé. Mais vraiment travailler fort, en fait, parce que j'ai préparé ceci, pas pour vous, mais en gardant le conseil en tête, pour une conférence que j'ai donnée l'année passée au Théâtre National. Et j'ai travaillé avec un photographe. Et on a vraiment élaboré un choix de photos qu'on a pris en partie spécialement pour soutenir mon travail. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai été puisée dans ce fond de photos-là pour voilà, illustrer mon propos, si vous voulez, et soutenir votre attention. Mais donc, effectivement, je n'aurai pas des grands DIA style académique qui a 40 DIA et avec plein de textes. Voilà. Mais j'aurai parfois quand même un peu de texte. Donc, tout ça pour vous rassurer. Donc, je prends ma montre parce que je vais bien regarder quand même l'heure, parce que je sais que je peux dramatiquement déraper. Donc, il est 7h45, on m'a dit une demi-heure. Oui. Okay. Alors, voilà. Donc, je voudrais démarrer du point suivant. C'est que quand on parle économie, quand on parle travail, on utilise toujours ces mots classiques que sont économie, oikos nomos hein, en grec, la règle de la maison, donc la loi de la maison. L'entreprise est dite privée par opposition à la sphère publique. Quand vous signez un contrat de travail, vous signez un contrat de subordination, vous acceptez d'être un subordonné, hein, de rang inférieur. Tous ces mots que l'on utilise pour parler de l'économie et du travail, en fait, renvoient à la sphère privée, un vocabulaire qui est vraiment très à distance de l'espace public des sociétés démocratiques. Et donc un vocabulaire qui fait penser, mine de rien, malgré tout ce qu'on peut en penser, que l'idéal démocratique, l'idéal d'autonomie, de liberté, est vraiment très éloigné, voire n'a rien à voir avec l'expérience qui se vit au travail. Or, quand on étudie le travail, qu'entend-on ? C'est ce que je vais vous présenter de manière très ramassée, ce que moi j'entends quand j'étudie le travail. Et je pense que sur base de ce que l'on entend aujourd'hui de la part des gens qui travaillent, sur base de cela, il est temps de prendre vraiment la mesure du changement qui affecte, qui traverse nos économies occidentales en tout cas. Parce qu'aujourd'hui en Europe, donc plus de 80% de l'emploi se joue dans le secteur des services. Travailler dans une économie de services, ça veut dire quoi ? Ça veut dire non plus travailler sur la matière, non plus travailler dans la terre des champs, mais ça veut dire travailler au contact d'un autre être humain, au contact des clients. Et ça, c'est vraiment le fait, je pense, central dans la révolution du régime de production qui nous affecte. C'est qu'aujourd'hui, le client est rentré dans le travail. Le client fait partie de l'espace du travail Et ça, ce n'est pas une petite révolution. Parce que dans une économie de service, qu'est-ce qu'on est ? On est avocat, on est caissier, on est esthéticienne, on est conseiller fiscal, livreur, programmateur informatique, journaliste, infirmier, psychologue, garde-malade, maître d'hôtel, serveur, fonctionnaire, réceptionniste, aide ménagère, banquier, programmateur informatique. Et tous ces gens-là, que font-ils ? Ils sont ben, comme vous et moi, ils rencontrent au quotidien d'autres personnes et leurs collègues, et ils servent au quotidien d'autres personnes, vous et moi à nouveau. Et quand on écoute ce que les gens qui travaillent, au fond, disent de leur travail, on entend toujours émerger la question de la justice. Ceci est juste, ceci est injuste. Alors, de tant de manières, cela s'entend. Comment on répartit les horaires de travail ? Qui va accéder à une formation ? Comment on va organiser le fait de prendre ses congés ? Qui peut prendre ses congés quand ? Comment on se répartit les espaces de bureau ? Comment sont rémunérés les supérieurs hiérarchiques, les actionnaires ? La décision d'ouvrir une nouvelle implantation, un nouveau magasin, une nouvelle ligne de produits ? La décision de fermer un site ? La décision d'un licenciement collectif ? Quel que soit au fond l'enjeu lié au travail, ma thèse ici c'est que on retrouve les conceptions sur le juste et donc forcément sur l'injuste en référence toujours au collectif, à des collectifs de travail. Ces collectifs peuvent être mouvants, nous sommes dans des organisations qui sont pour la plupart flexibles ou totalement, voire totalement flexibilisées, mais malgré tout la référence au collectif reste présente. Or ça, en fait, c'est l'essence même du politique. La mobilisation des conceptions de la justice dans le cadre de référence au collectif, c'est ça l'expérience politique. Évidemment, ce n'est pas la politique partisane, c'est le politique, l'essence même du politique, c'est cette mobilisation constante de nos conceptions sur le juste et l'injuste en référence à des cadrages collectifs, si vous voulez. Évidemment, vu le nombre de salariés, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise, même dans les toutes petites entreprises, on va trouver de nombreuses conceptions sur la justice, des conceptions potentiellement fort contradictoires d'ailleurs. Mais au-delà, au fond, de ces conceptions différentes, moi, ce que j'entends, ce que mon travail de sociologue, si vous voulez, me donne à entendre, c'est que l'on retrouve ce que j'appelle une méta-conception de la justice, c'est-à-dire la conception de la justice démocratique. C'est-à-dire l'idée que les gens se rendent bien compte que leurs collègues, les autres personnes qui sont au travail, ne partagent pas le même avis qu'eux, quel que soit le point à discuter ou l'enjeu. Mais ils se rendent compte aussi qu'il n'y a pas une bonne conception qui, par essence, devrait s'imposer. Et qu'au fond, il leur semble que cette... au sortir d'un positionnement, si vous voulez, où chacun aurait eu droit à peser sur la conception de la justice qui va être finalement choisie, qu'il serait juste de s'organiser. Et donc, si vous voulez, vous pouvez voir toutes les décisions qui sont prises au travail comme, en fait, chaque fois des décisions qui mobilisent une conception particulière de la justice. Ça va être la justice méritocratique, par exemple, celui qui a fait le plus gros chiffre de vente, ça va être la règle de l'ancienneté, celui qui est arrivé le premier dans l'entreprise, ça va être une règle de justice purement formelle, on tire au sort, enfin, peu importe, il y a un nombre assez étendu de conceptions sur la justice. Mais en fait, il n'y aura pas une infinité et... Il y a une conception, si vous voulez, qui soutient l'ensemble de ces conceptions particulières. C'est ce que j'appelle cette méta-conception de la justice démocratique qui s'impose avant ces conceptions particulières et qui est partagée par les gens, qui fait l'intuition, si vous voulez, qui est en œuvre dans le travail, qui est que eux voudraient se positionner, mais ils ne voient pas pourquoi les autres ne pourraient pas, eux non plus, se positionner. C'est ce que j'appelle donc cette intuition critique de la justice démocratique. Alors, si le travail, justement, correspond à une expérience politique, dans ce sens fondamental dont je parlais, et que le travail mobilise cette conception, intuition, attente de justice démocratique, au cœur même de cette expérience-là, que font les gens au quotidien du travail, alors, Qu'est-ce que l'entreprise? C'est ça qui va nous intéresser évidemment ce soir. Qu'est-ce qu'une entreprise si c'est ce lieu-là où se vit cette expérience-là? Eh bien, ma proposition de réponse serait évidemment de dire un espace de vie en commun que l'on doit identifier comme, au fond, une institution politique centrale de notre vie, mais que l'on ne reconnaît pas comme telle, et que l'on aime, pour différentes raisons aussi, à ne pas penser comme telle, parce que ça peut être dangereux de penser que l'entreprise est une institution politique. Ça peut nous ennuyer fortement, nous ne sommes pas équipés pour ça, nous héritons d'une philosophie sociale qui pense l'entreprise, comme je le disais, comme faisant partie de la sphère privée et n'ayant rien à voir avec le domaine de l'espace public. Et pourtant, je pense que c'est le saut que nous allons devoir opérer à l'avenir. Le travail, donc, est devenu cette expérience politique par excellence. Bien plus que le fait d'aller voter une fois tous les 5 ans, 3 ans, ou que sais-je. Et il faut, je vais revenir ici sur la présence du client. Il faut bien identifier, je pense, ceci, c'est le fait que la caractéristique du travail à l'heure d'une économie de service se trouve dans le fait que l'on passe d'un travail isolé, vous vous rappelez la première photo noir et blanc que j'avais, qui venait d'un livre d'histoire économique, où l'on voit un univers complètement clos qui fabrique une production matérielle. Ça ne ressemble évidemment pas du tout à nos environnements de travail ici en Occident. Et la conséquence du fait que nos environnements de travail ne sont plus ces univers clos entre collègues où l'on se connaît tous, où on est tous dans des horaires stabilisés, sous le regard de notre supérieur hiérarchique, et où il n'y a pas du tout de présence du client. Il y a la production d'un produit qui va sortir de l'entreprise, et c'est le produit qui va sortir, vivre ailleurs, vivre à l'extérieur de l'entreprise. Mais les travailleurs restent vivre dans cet espace clos domestique de l'entreprise. La conséquence de cette transformation, c'est que pour le travailleur, pour le salarié qui est au travail, dans ce contexte aujourd'hui d'économie de service, il n'est plus question d'être traité comme un domestique, comme appartenant à cet univers, si vous voulez, de l'espace privé auquel l'entreprise appartenait sans doute dans le passé, mais auquel aujourd'hui il ne correspond plus du tout. Et comment je vois ça? Je vois ça parce que, en fait, au travail, on va retrouver les attentes typiques de l'espace public. Et l'attente principale et caractéristique de l'espace public dans les cultures démocratiques stabilisées et avancées, c'est la reconnaissance de l'égale dignité d'autrui. Au travail, en fait, on va retrouver cette attente de la reconnaissance de l'égale dignité. Que la caissière, par exemple, soit à votre service, ne fait pas d'elle votre servante. Elle vous sert, elle n'est pas votre servante. Elle, de son point de vue, elle ne renonce pas à son égalité démocratique, si vous voulez. Elle ne renonce pas à cette dignité qui lui vient, hein, dignité, article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout homme, tout être humain naît libre et égaux en dignité et en droit. Et ça, c'est une culture, hein, c'est pas parce qu'il y a une charte qui existe, c'est une culture, c'est la culture qui s'approfondit dans les sociétés démocratiques avancées. Et donc, du point de vue du travailleur, travailler, c'est prendre part à la sphère publique démocratique, du point de vue de l'expérience de ce qui est vécu. Mais en même temps, vous entendez bien qu'évidemment, c'est une critique, parce qu'il n'y a pas beaucoup, sauf sans doute de manière tout à fait non statistiquement représentative, quantité d'expériences que vous connaissez, mais la plupart des milieux de travail ne sont pas des milieux où peut se vivre la reconnaissance de cette égale dignité. Or, quel est le moteur de la production en Europe ? Le moteur de la production, c'est évidemment l'innovation. Et la clé de voûte de nos modèles productifs des services, ben c'est cette capacité d'innovation. Qui sont les détenteurs de la capacité d'innovation? Ce n'est pas vos tables, ce n'est pas vos chaises, ce n'est pas vos équipements. C'est vos cerveaux, c'est vos personnes. C'est les salariés qui sont ceux que vous mettez, mobilisez au travail pour qu'ils résolvent les problèmes qui se posent aux clients. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous en êtes évidemment convaincu. Là, je n'ai pas beaucoup de mérite à m'adresser à une audience comme la vôtre. Alors, l'entreprise capitaliste, donc, dans ce contexte-là, l'entreprise capitaliste, ben, comment est-elle organisée? Mais comme une organisation économique qui est gouvernée par les seuls propriétaires des actions, hein, des parts de la société anonyme, qui, eux seuls, ont le pouvoir de décider des finalités, de valider la stratégie à suivre, de nommer le management, le comité exécutif de l'entreprise, et auprès desquels ce comité exécutif doit rendre des comptes. Donc, que vous soyez syndiqué ou non, qu'il y ait représentation syndicale ou non, droit collectif du travail un petit peu substantiel dans ce type d'environnement, ne change pas la donne fondamentalement. Le travailleur ne pèse pas sur les finalités de l'entreprise. Et effectivement, à qui le top management de toutes les grandes entreprises, certainement le cas des grandes entreprises multinationales est encore plus limpide, si vous voulez, hein, qu'on pense à ArcelorMittal, Goodyear ou Zara, par exemple, à qui le top management de cette entreprise rend-il des comptes? Mais à leurs principaux actionnaires, pas à leurs travailleurs, et encore moins accessoirement à leurs travailleurs basés en Belgique. Mais institution politique, je disais, plutôt que simple organisation économique. Alors comment l'expliquer mieux encore? On a cru que l'entreprise, au fond, se limitait à être une organisation qui poursuit une logique instrumentale. La logique instrumentale, c'est la logique qui se résume à donc être l'instrument au profit d'une fin, qui est ici le profit précisément, le profit de l'actionnaire, tout comme en fait le salaire du travailleur. Et cette conception instrumentale de ce qui se vit dans l'entreprise, tant du point de vue de celui qui y investit son capital que de celui qui investit son travail, hein, logique de nature instrumentale, est une perception tout à fait erronée de la réalité. Mais c'est une perception sur laquelle nos systèmes juridiques, nos systèmes de droit et de devoir sont organisés. Parce que c'est effectivement au nom du fait que, en fait, les capitalistes, les apporteurs de capitaux, sont, si vous voulez, les meilleurs représentants de cette logique instrumentale, parce qu'on sait que les travailleurs, c'est pas toujours... Les travailleurs peuvent avoir des raisonnements qui sont entachés de considérations pas tout à fait propres par rapport à la logique instrumentale de la camaraderie, des vieilles cultures qui les empêchent de poser des décisions de manière claire et rationnelle en référence à cette logique instrumentale. Au nom du fait que les actionnaires sont les meilleurs représentants de la logique instrumentale, il faut évidemment leur confier les manettes de l'entreprise, si c'est la seule logique qui se vit dans l'entreprise. Mais ce n'est pas le cas. Une entreprise, c'est plutôt ceci. Ce n'est pas uniquement... Il y a évidemment rationalité instrumentale, il y a un calcul moyen-fin qui se fait de manière constante dans la vie de l'entreprise, mais il y a aussi une autre logique. Et c'est ce que je vis sous le terme de rationalité politique, qui donc... se rapporte, si vous voulez, à cette expérience politique du travail, à la mobilisation des conceptions sur la justice. C'est une rationalité, si vous voulez, en justice, qui se déploie aussi dans l'organisation, à côté ou au travers, ou tissée dans la rationalité instrumentale. Et c'est de la rencontre fructueuse de ces deux logiques, instrumentale et politique, donc qui est orientée à la fois par en termes d'efficacité, hein, ou de profit, et en termes de justice, pour le dire de manière ramassée, c'est de leur rencontre que vous pouvez produire une entreprise qui fructifie, une entreprise qui innove, une entreprise qui se développe. Mais si vous ne tenez pas compte de cette rationalité politique, de ces évaluations en justice, eh bien, vous allez vous trouver devant de graves problèmes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de voir la maturation de ce problème. Et donc, si l'entreprise capitaliste est cette rencontre entre la logique instrumentale et la logique politique, la rencontre, au fond, si on doit identifier des acteurs sociaux qui portent ces logiques, eh bien, évidemment, on dira la rencontre des apporteurs en capitaux avec la rencontre des investisseurs en travail, alors il est temps de gouverner l'entreprise d'une manière conforme au fait que l'entreprise, c'est l'institution où se vit cette rencontre. Et donc, il est temps de doter l'entreprise d'institutions adéquates, solides, qui permettront le déploiement, la rencontre fructueuse de ces deux logiques. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste ? Je viens de le dire, c'est donc la combinaison de deux rationalités, celle de l'apporteur en capital qui investit, évidemment, donc je force le trait, hein, qui investit en vue du profit, qui est le meilleur représentant, si vous voulez, de cette logique instrumentale, et l'investisseur en travail qui, lui, est mu par une rationalité politique. Et l'entreprise est donc la combinaison de ces deux rationalités qui font son succès, hein, la logique politique plus la logique instrumentale. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise ? Eh bien, c'est une institution qui devrait être considérée comme fondée sur ces deux corps constituants, si vous voulez. Si vous prenez un regard de théorie du droit, que vous dites on a affaire là à une institution et il faut lui donner un droit approprié, eh bien, vous devez reconnaître que le management de l'entreprise doit pouvoir s'appuyer sur un droit de l'entreprise qui va le rendre légitimement capable d'opérer et de prendre des décisions. Et ça, au nom des deux corps constituants de l'entreprise, au nom de ces deux logiques-là, en vue de les faire fonctionner ensemble de manière optimale et fructueuse. Et donc la question qui se pose à nous est la suivante. Laisser l'entreprise aujourd'hui aux mains des seuls apporteurs de capitaux, si vous voulez. Hein. Donc, si vous prenez le droit tel qu'il se passe, tel qu'il existe aujourd'hui, qui est en fait le droit des sociétés anonymes, hein, le droit de l'entreprise à proprement parler n'existe pas, précisément parce que l'entreprise n'est pas reconnue comme une institution digne de ce nom. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un droit des sociétés et vous avez un droit du travail. Que dit le droit des sociétés ? Le droit des sociétés donne la gouvernance des entreprises aux mains des apporteurs en capitaux. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est efficace ? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas pour trois raisons principales. Ce n'est pas juste, si vous voulez, au sens du manque de légitimité. Ce n'est pas légitime, car je viens l'expliquer, il n'y a pas que la logique instrumentale qui se déploie dans l'entreprise. Il y a cette logique politique, et cette logique politique ne peut s'exprimer nulle part, si vous voulez. Il n'y a aucun canal institutionnel pour l'expression de la logique politique. Elle ne peut pas peser sur le gouvernement de l'entreprise aujourd'hui. Mais ce n'est pas raisonnable non plus, parce que la survalorisation de la logique instrumentale, le déni de la logique politique et de l'attente de justice démocratique au travail est un facteur de démotivation majeur aujourd'hui. De stress, de souffrance au travail, de mal-être. Et enfin, ce n'est pas non plus intelligent, parce que c'est un véritable gâchis de compétences. Hein. À l'heure où la formation des salariés n'a jamais été aussi élevée, même la caissière de supermarché sait lire et écrire, bien sûr, de nos jours, ça c'est acquis, mais en plus, elle est tout à fait capable de comprendre une stratégie marketing, une stratégie financière, si on lui explique. Les gens ont acquis un niveau de formation sans précédent. Et pourtant, on les met toujours au travail comme du temps où ils avaient à peine le niveau d'études primaires. Et donc,
les salariés, que les salariés n'aient pas leur mot à dire sur la manière dont le travail est organisé, alors qu'ils sont les meilleurs connaisseurs, en fait, de ce travail, de son effectivité, de ses problèmes, donc de ses solutions, c'est, en fait, bon, disons-le comme ça, simplement, c'est d'une bêtise achevée, quoi. Donc, dans le cas d'une société démocratique, cette situation, je pense, représente une contradiction qui ne peut que devenir de plus en plus insoutenable à mesure que vous allez avoir des jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qui, eux, vont de moins en moins comprendre que leur égalité démocratique, leur égalité n'est pas considérée, qu'ils doivent être un facteur de production parmi d'autres, qui doivent exécuter sans pouvoir avoir leur mot à dire, la contradiction ne va faire que s'approfondir. Alors, y a-t-il un plan pour en sortir? Oui. Enfin, je pense, oui. Parce que ce que j'appelle en fait un choc de compétitivité, mais un choc de compétitivité démocratique, cette fois. Parce qu'il est temps donc de gouverner l'entreprise autrement. Et il faut la gouverner d'une manière qui soit légitime, raisonnable et intelligente. Et en fait, quand on se penche sérieusement sur ces justifications, on se rend compte que l'on tombe sur les grandes justifications du gouvernement représentatif dans la théorie du droit. Un gouvernement raisonnable, un gouvernement légitime, un gouvernement intelligent. Et c'est ce gouvernement a commencé sous la forme bicamérale. Et donc, là, j'ai fait un parcours, si vous voulez, ce parcours sur le travail, ces recherches sur le travail m'ont amené à me dire, mais en fait, dans l'histoire, nous sommes déjà passés à ce moment-là. Nous avons déjà vécu ce moment-là, si vous voulez, comme quand vous vivez un moment où vous dites, mais j'ai déjà vécu ce moment-là. Ben oui, c'était le moment où l'État, la cité, n'appartenait qu'à un tout petit nombre de gens. Les propriétaires terriens, hein, pensez au suffrage censitaire, bien sûr, mais remontez plus loin. En fait, l'amorce du processus de démocratisation en Occident est passée par ce que j'appelle un moment bicaméral. Et on peut remonter très, 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 très loin, et on peut remonter jusqu'à Rome. Rome en moins 494. Rome en moins 494 connaît une révolte de la plèbe qui n'en peut plus de vivre sous les injonctions de patriciens qui ne connaissent pas leurs problèmes, ne savent pas les résoudre et qui édictent des lois évidemment à leur propre profit. Et Tite-Live rapporte comment l'armée, les marchands, l'ensemble de la plèbe se sont en fait opposés au pouvoir unilatéral des patriciens. Et finalement, contraints et forcés, les patriciens ont reconnu à la plèbe, le droit de se choisir deux tribuns de la plèbe. Et ces tribuns de la plèbe vont avoir un droit de veto sur toutes les décisions des patriciens. Un droit de veto ex ante, ex post. Donc, les patriciens vont accepter de complètement se limiter dans leur pouvoir unilatéral. Et ça, c'est l'ancêtre, en fait, du bicamérisme, du principe qui veut que l'on va mettre dans deux chambres les deux grands corps constituants d'une institution pour, en fait, les forcer à travailler ensemble. Il faut bien voir que c'est un dispositif institutionnel qui veut et qui crée la coopération. Et donc, voilà l'ancêtre du principe bicaméral, le principe qui veut que l'on reconnaisse la logique duale des rapports sociaux. Et ça, c'est aussi très intéressant de le voir. Ça m'a fort presque bouleversée quand je l'ai vu. C'est que je pensais que c'était Marx qui avait mis en évidence le rapport de force entre capital et travail. Mais en fait, c'est toute la philosophie occidentale qui étudie l'histoire des rapports sociaux, et Tite-Live le voit déjà, c'est qu'il y a une logique duale aux rapports sociaux qui fait que, si vous voulez, il y a toujours des coalitions d'acteurs qui vont s'opposer, hein, deux groupes sociaux, deux types d'intérêts, deux logiques, deux rationalités, deux classes sociales, deux corps constituants pour constituer la nation. Rome, contraint et forcé de vivre ensemble, donc parce que contraint et forcé, interdépendant, eh bien, devant s'accorder sur leur rapport. Ça, c'est évidemment l'exemple antique, mais l'exemple moderne, le cas moderne, enfin moderne, hein, le plus emblématique, c'est évidemment le cas britannique. Parce que là, dès 1377, la Chambre des Commons, qui représente donc le peuple, va se réunir indépendamment de la Chambre des Lords. Et qu'est-ce que la Chambre des Lords? En fait, la Chambre des propriétaires. Et le roi d'Angleterre, et en ça, c'est aussi le démarrage du principe de la séparation des pouvoirs, va accepter de se contraindre, de limiter ses pouvoirs, de telle sorte qu'il va donner tout le pouvoir législatif à ces deux chambres, qui vont être forcés de s'entendre, et il va, se contenter de l'exécutif, disons. Mais donc là est né le bicamérisme moderne, et les justifications qui vont être produites pour ce Parlement, ce pouvoir législatif, donc, à deux chambres, l'une pour le peuple, l'autre pour les propriétaires, vous me voyez venir, évidemment, l'une pour le capital, l'autre pour le travail. Et pour ce gouvernement au sens non seulement donc large mais strict du management en fait, hein, du pouvoir exécutif à deux chambres, eh bien ces justifications sont celles que l'on va retrouver, donc dont j'ai parlé un peu par défaut dans le cas de l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui, l'entreprise capitaliste, qui est en fait que l'on peut voir alors comme une entreprise monocamérale de capital. Il y a bien une chambre qui gouverne l'entreprise, si vous voulez, mais c'est en fait comme si l'Angleterre était toujours gouvernée par la Chambre des Lords. Eh bien, ce bicamérisme est considéré comme la condition d'un gouvernement légitime, raisonnable, intelligent. Et donc aujourd'hui, l'entreprise capitaliste, c'est une sorte d'Angleterre à une seule chambre, hein, où seuls les actionnaires propriétaires des parts de la société anonyme paient sur le gouvernement du travail. Or, puisque aujourd'hui, notre développement dépend tant et tant de notre capacité d'innovation, donc de la motivation de nos salariés, dans une économie de service, où cette maison privée, cette économie n'est plus une maison privée, ça n'a plus rien à voir avec ça. Et ce regard constant du client qui fait que le lieu du travail se vit comme un espace public et mobilise des attentes chez les travailleurs qui sont en fait typiques de l'espace public démocratique. Et donc pour cette raison, fait émerger cette attente de justice démocratique vraiment au cœur du travail, je crois qu'il va être de plus en plus difficilement tenable de traiter les salariés comme des subordonnés, des non-égaux dans l'entreprise, ce qui rend en contradiction fondamentale avec leur dignité de citoyen qui est proclamée et vécue par ailleurs. Et donc s'inspirer alors de l'histoire politique des sociétés modernes va devenir de plus en plus nécessaire, si vous voulez, pour faire transiter l'entreprise d'un monocamérisme actuel vers un bicamérisme qui allie justice et efficacité, reconnaissance de ces deux rationalités instrumentales et politiques fondées sur la reconnaissance de ces deux corps constituants. Et donc, la proposition du bicamérisme économique, c'est quoi? C'est le bicamérisme économique vise à reconnaître tout simplement le même poids politique en termes de droit aux investisseurs en travail et à leurs représentants, que le poids accordé aux apporteurs en capital, dans le but de faire pleinement peser les salariés sur le gouvernement du travail et l'exécutif de l'entreprise. À quoi cela ressemblerait donc, hein, je commence à approcher tout à fait. Je peux encore prendre 5 minutes là pour terminer? Oui, merci. Donc... Donc, à quoi ressemblerait une entreprise bicamérale? Eh bien, à une entreprise où les deux grands corps constituants de l'entreprise seraient forcés institutionnellement de gouverner ensemble. dans l'intérêt de l'entreprise, hein, donc dans l'intérêt des parties prenantes, au travers d'un gouvernement représentatif qui serait désigné par elle, hein, donc d'un comité exécutif qui serait désigné par ces deux assemblées. Donc, nous trouverions une... Et donc, la partie gauche, c'est en gros la partie existante, actuelle, si vous voulez, de l'entreprise capitaliste. Hein, une assemblée générale, on dira des actionnaires, que moi, je renomme des apporteurs en capital, qui désignent ce qui est aujourd'hui le conseil d'administration. Mais en fait, le conseil d'administration, c'est quoi? C'est une chambre des représentants, hein, des apporteurs en capital. Et actuellement, seul ce conseil d'administration pèse sur le choix du comité exécutif. Et ce qui est fait ici, c'est simplement, l'analogie est vraiment bête, de réunir les investisseurs en personne, tous ceux qui investissent dans l'entreprise, non par leur capital, mais par leur travail, au sein d'une assemblée générale des investisseurs en travail, de leur donner un droit de vote basé sur le principe « une personne, une voix », et qu'ils puissent eux aussi se choisir des représentants des investisseurs en travail. Et ces deux chambres, alors, pèseraient à poids égal sur le choix du comité exécutif, valideraient sa stratégie, ferait tout ce que fait actuellement un conseil d'administration. Donc, il faudrait 50%, hein, vous m'avez bien compris, 50% plus une voix dans chacune des deux chambres pour que une décision soit avalisée. Je ne parle pas évidemment des petites décisions du quotidien. Prenez vraiment l'analogie avec un conseil d'administration qui ne se positionne pas tous les jours sur tout et n'importe quoi. Hein. Alors, est-ce que c'est complètement délirant? C'est certainement du jamais vu. Tel quel, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais je cherche toujours et je suis toujours preneuse de découvrir Oui, attention à ce que je dis. Mais en même temps, il y a de nombreuses institutions qui existent et qui, en fait, s'approchent de ça. Qui s'approchent de ça, et le point le plus proche, si vous voulez, dans l'histoire, je ne parle pas d'initiative individuelle, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui existent dans le secteur hospitalier, par exemple, avec des systèmes à deux chambres, mais qui ont toujours un poids différent, à ma connaissance. Mais enfin, il y a des choses qui s'en approchent, mais qui ne sont pas généralisées. Mais au niveau, disons, d'une histoire du capitalisme, il y a un pays qui a mis en œuvre quelque chose qui peut être considéré comme l'étape avant, c'est l'Allemagne, évidemment. C'est le système de la Mitbestimmung. Ça, vous y aviez certainement pensé en me voyant venir. Mais qu'est-ce que le système allemand de cogestion? C'est un système qui reste monocaméral. Et donc, c'est très important pour moi de dresser, de faire cette différence. C'est que dans le système allemand, vous gardez un conseil, le conseil de surveillance, conseil d'administration, qui est unique, dans lequel il y a représentation à 50-50 des apporteurs en capital et des salariés, avec en fait un président qui vient du banc patronal. C'est en fait la codétermination courante en Allemagne est ce que les juristes allemands appellent une codétermination de fausse parité. Donc il ne faut pas croire que c'est un système paritaire, parce qu'il y a toujours en fait cette voix finale du banc patronal, même si en fait la culture allemande fait qu'on essaye vraiment de prendre les décisions avec le banc des travailleurs, mais évidemment, le pouvoir des salariés est beaucoup moindre. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'en convaincre un pour remporter la décision du point de vue patronal. Il suffit d'en avoir un avec soi pour dire, vous voyez, on a des salariés qui sont d'accord avec nous. Et avec cela, toutes les tentatives de corruption qui font certainement une des grandes faiblesses de ce système. Mais il n'y a pas de secret. Effectivement, le tissu industriel allemand est le plus puissant d'Europe et certainement, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas assez, mais est lié aux caractéristiques institutionnelles du modèle allemand, qui ancre le capital et les capitaux internationaux dans ces investissements. Et si vous prenez juste le cas de Mittal, par exemple, il est très intéressant de l'étudier de manière comparative, comme le cas de Volkswagen aussi, mais qui, là où là, il y a un patriotisme en plus allemand qui fait que, je dirais, l'analyse est biaisée. J'ai travaillé sur le cas de Volkswagen ici à Forêt et en Allemagne, les choses étaient claires. Mais le cas de Mittal est tout aussi clair. Vous voyez qu'en France, à Florange, à Liège, Mittal se désinvestit. En Allemagne, alors qu'il est juste de l'autre côté de la frontière de Liège, Mittal est bien présent et n'annonce aucun désinvestissement. Or, le coût du travail en Allemagne dans l'industrie est tout à fait important, mais la manière dont Mittal est lié à ses investissements en Allemagne fait qu'il ne peut pas se désengager comme ça. D'abord, le pouvoir public est aussi présent et les travailleurs sont présents au niveau du conseil de surveillance de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que face à la crise, face au blocage, c'est l'heure d'un choc de compétitivité dont il s'agit. Mais je pense à un choc qui passera bien moins par la focalisation sur des questions de coût du travail que sur les questions d'institutions qui font en fait toute la différence dans la productivité d'une organisation. Et la relance, en fait, c'est la relance dont il s'agit, c'est d'abord la relance de l'innovation institutionnelle. Nous avons, tout au long de l'histoire du capitalisme, tout au long des 200 dernières années, eu des gens qui ont inventé, des gens qui ont innové dans les structures institutionnelles. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre la mesure de la donne du changement et du passage à l'économie de service. Donc, pour terminer ici ma présentation, je dirais ceci. Qu'il est l'heure de se rendre à l'évidence que la voie empruntée pour gouverner le capitalisme, donc la voie monocamérale au niveau de l'entreprise, nous mène droit à la crise. On l'a vu très clairement avec la crise de 2008, parce que le cas du gouvernement des entreprises du secteur bancaire est particulièrement intéressant. Mais est-il normal que dans le contexte d'une société démocratique avancée comme la société européenne, dans le lieu, au fond, où les citoyens ont le plus d'expertise, le plus de compétences à un jugement informé, est-il normal qu'il n'ait paradoxalement rien à dire, ou quasi rien à dire? Ou, pour le dire autrement, qui tolérerait encore que l'Angleterre ne soit gouvernée que par la Chambre des Lords? Qui tolérerait que notre société soit encore gouvernée que par les seuls propriétaires des terres? Et dans un tel contexte, est-il si étonnant que l'innovation soit faible, que la motivation et l'engagement des salariés posent problème? Vous le savez tous mieux que moi, puisque beaucoup d'entre vous participent à, justement, faire advenir d'autres structures de décision et d'autres structures institutionnelles pour que les salariés puissent peser et puissent retrouver la motivation. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle étape dans l'histoire de l'innovation institutionnelle pour l'entreprise. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci. Merci.